الفيديوهات والتصاور اللي شفناهم الأيامات اللي فاتوا من الجامعات الأمريكية شيء فرهد على القلب. أولاً على خاطر منصرة القضية الفلسطينية اللي هي قضية عادلة، لكن زادة على خاطرهم يواجهوا سردية أخرى تاع صراع الحضارات والهويات وتاع الغرب الكل خايب والكل عدو. يبين لنا اللي مازال فما إمكانية متاع تضامن ما بين الشعوب، ويعطي بديل الخطاب الهوية اللي سائد برشا اليوم وما هو بشي هزنا إلا الأكثر حروبات وهضم حقوق شعوب اللي تحمل قضايا عادلة. في نفس الوقت في تونس نعيش رهانات متعلقة بالهوية، كي تعدى كلمة البرقيبة في آخر مسلسل، وإلا كي نعاودوا نحكيوا على حج الغريبة، ديما مسألة الهوية تقعد مسألة تسيل برشا حبار وتستجدي برشا حديث. اليوم باش نفهموا هذا الكل، مسألة الهوية تبنات على مر سنين والتاريخ أثر فيها وحدد مكوناتها والديناميات اللي تخلقها. في رشمة أنا هيزيتي برشا، ترددنا قبل ما نقرروا أنه نعملوا الانترفيو هذه. طبعا الضيفة قيمة ثابتة وهذا ما فيهش كلام، لكن ترددنا حول استعمال اللغة الفرنسوية في الانترفيو هذه. بعد قررنا اللي المعرفة أيا كانت لغتها، مدام عنا فرصة باش نتقسموها معاكم، باش نتقسموها معاكم أيا كانت لغتها. ودو توت لي فاسون نجمو تلقاو السوتيتراج اوتوماتيك اي فو لاكتيفي لوطا في الفيديو على يوتيوب. هذا واضح. واليوم حديثنا باش يكون اكثر وضوح على مسألة التاريخ والهوية مع سوفي بسيس. مرحبا سوفي.
يا عيشة يا سليمة.
Nous allons discuter donc en français. Toutes vos œuvres ont été écrites en français. Vous avez toujours utilisé une terminologie en français. Et pour une précision et une pertinence maximale, on utilisera le français
Merci
tout au long
beaucoup,
de cette interview.
Merci beaucoup, pour vos auditeurs. La khatra, manich bich nkellem bellougha l'arabia, mais voilà, j'espère que vos auditeurs ne seront pas trop gênés de l'utilisation de la langue française.
سوفي بسيس مؤرخة صحفية، كنت زادة سابقا أمينة عامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. Notre discussion pour commencer, vous habitez en France mais aussi en Tunisie, vous êtes à cheval entre les deux.
Oui.
Et vous venez depuis quelques jours de France où la situation atteint une extrême gravité. Des poursuites contre des députés, des syndicalistes qui soutiennent la cause palestinienne, des interdictions de rassemblement, des entraves à la liberté de manifester. On a l'impression que la France vire vers l'autoritarisme. Comment expliquer l'extrême gravité de cette situation ?
Vous avez raison de le souligner, c'est une situation est très grave. Je dirais qu'elle a commencé avant l'explosion avant l'explosion de la situation en Palestine, à Gaza particulièrement. On l'a vu à plusieurs occasions au cours des dernières années. Par exemple, la répression des mouvements écologistes, qui a été extrêmement importante, c'est-à-dire la criminalisation des mouvements écologistes a été extrêmement importante ces dernières années en France, avec la même logique, c'est-à-dire l'utilisation de toute l'appareil judiciaire de l'antiterrorisme pour empêcher un certain nombre de gens ou d'expressions gênantes de s'exprimer. Alors, je crois que le gouvernement Macron, depuis 2017, est dans une très mauvaise pente à ce niveau-là. Et ça a atteint, comme vous l'avez dit, ça a atteint son paroxysme depuis les événements du 7 octobre et la riposte sanglante d'Israël dans la bande de Gaza. Effectivement, ça a atteint des sommets totalement surréalistes. Empêcher des députés de s'exprimer, empêcher des rassemblements d'avoir lieu, empêcher un Jean-Luc Mélenchon d'aller s'exprimer à l'Université de Lille. Je précise que je ne suis pas mélenchoniste, mais je trouve que c'est absolument scandaleux. Pourquoi? Alors, il faut se poser la question.
Mais la criminalisation aussi des positions, en engageant des poursuites judiciaires contre la députée Panot.
C'est-à-dire la mais ce qui est extrêmement grave, à mon avis, c'est la judiciarisation de la protestation, qu'elle soit contre des politiques gouvernementales ou qu'elle soit sur la question palestinienne aujourd'hui. C'est-à-dire que des questions qui sont éminemment politiques sont mises entre les mains d'une justice qui n'a rien à voir dans cette affaire, en réalité. Ce n'est pas le travail de la justice que de dire si un tel ou un tel doit se positionner sur la question palestinienne. Tant qu'il n'y a pas de propos racistes, c'est-à-dire de propos expressément antisémites, lesquels sont punis par la loi, tant qu'il n'y a pas de propos expressément antisémites, la justice n'a pas à intervenir dans des prises de position de type politique. Donc je vois là, moi, une dérive extrêmement dangereuse, qui est une dérive contre la liberté d'expression. C'est la première fois en France qu'un syndicaliste, pour des propos politiques, écope de un an de prison. C'est énorme. C'est énorme. Et moi, je crains tout à fait que les choses n'empirent sur ce plan-là. Alors, il faut expliquer pourquoi. Sur la question
palestinienne.
Pourquoi
à ce point, surtout ? Pourquoi à ce point ?
Parce que je crois qu'il faut remonter très loin, en réalité, pour comprendre. Il y a deux choses, deux éléments d'explication. Le premier, c'est, comme je vous le disais, la dérive autoritaire du gouvernement français, surtout... Il n'a pas commencé, certes, mais cette dérive autoritaire s'est accélérée depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Je crois que c'est une dérive qu'il entretient et ça, c'est extrêmement grave. Maintenant, ça, c'est la tendance générale de la politique française. On sait très bien... comment le ministre de l'Intérieur, par exemple, criminalise un certain nombre de positions qui sont antigouvernementales et il a été, à plusieurs reprises, recadré par le Conseil d'État. Par exemple, il y a certaines manifestations pro-palestiniennes qui ont été interdites par les préfets ou par le ministre de l'Intérieur et les associations ont fait des référés devant le Conseil d'État qui a dit qu'il n'y a aucune raison pour les interdire. Il faut les autoriser. Elles n'ont pas à être interdites. Et puis, le caractère incandescent de la question israélo-palestinienne en France et dans toute l'Europe d'ailleurs, hein, ce n'est pas seulement en France, c'est-à-dire que certes, et moi je le dis très carrément, ce qui s'est passé le 7 octobre, toute lutte de libération doit faire très attention à ses procédés et à ses moyens, parce que les moyens déterminent ce que sera la fin. Donc moi j'ai toujours été, quel qu'il soit, contre les massacres de civils dans toute lutte de libération, que ça a été en Algérie dans les années 1960, donc je suis contre les massacres de civils israéliens. Ça peut s'expliquer, mais toute explication n'est pas une justification. Ça, c'est la première chose. Cela dit, tout le monde le sait, la riposte israélienne est d'une sauvagerie et d'une barbarie qui n'était pas imaginable. On pouvait le prévoir. Moi, j'avais écrit un article dans Le Monde en février 2023, c'est-à-dire plusieurs mois avant ce qui s'est passé, en disant ça va empirer et ça va empirer très vite. Ça va empirer très vite parce que aujourd'hui, il n'y a plus aucun garde-fou devant les exactions de l'extrême droite israélienne. L'extrême droite israélienne qui est au pouvoir aujourd'hui dans cet État est dans une situation d'impunité internationale absolue. Pourquoi voulez-vous qu'elle se prive de faire ce qu'elle fait ? Mais il se trouve que l'État d'Israël a en Europe, et aux États-Unis n'en parlons pas, un statut particulier, il faut bien le dire, qui est dû à l'histoire, bien sûr. Qui est dû à l'histoire, c'est-à-dire que l'Europe n'en finira pas de payer sa dette vis-à-vis de son antisémitisme séculaire qui a atteint son paroxysme avec le génocide nazi, et imagine que la défense inconditionnelle de cet État, dans ce qu'il a de pire, peut lui permettre de se libérer de cette dette qu'il a vis-à-vis des Juifs. Et ça, malheureusement, on est arrivé à des niveaux de comment pourrais-je exprimer cela ? On est arrivé à des niveaux de défense de la politique israélienne qui sont absolument inacceptables. Et cette défense aujourd'hui de la politique israélienne et de la guerre que cet État mène à Gaza, qui on le sait au jour d'aujourd'hui, au jour où nous parlons, a fait à peu près 34 000 morts, selon, sans parler des morts qu'on n'a pas encore vu.
Des disparus qui sont sous les décombres.
Voilà. De ceux les qui sont sous les décombres. Donc milliers, c'est certainement milliers. Plus. Donc c'est certainement plus. Sans parler des exactions en Cisjordanie, où il y a eu plusieurs centaines de morts, ne l'oublions pas, où on assiste à des choses absolument inacceptables aujourd'hui, à, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, à des choses qui s'apparentent à une deuxième Nakba. Voilà. En tout cas, il est évident que pour la droite israélienne,
c'est le projet porté par le gouvernement actuel israélien.
C'est une deuxième Nakba. Même si les modalités ne seront pas les mêmes que celles de 1948, évidemment. Et donc, les gouvernements européens ne veulent pas voir ce qui se passe. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les choses étaient très commodes, en réalité. Cela faisait plusieurs années que la question palestinienne, plus personne n'en parlait. Elle était passée au deuxième plan, il y avait un certain nombre d'États arabes qui normalisaient, c'était formidable, et tout le monde estimait qu'avec un peu d'aide économique, la revendication nationale palestinienne allait disparaître dans les limbes de l'histoire. Eh bien, c'est pas le cas. Et tout le monde est très embêté. Comment faire pour avoir... Et la France est très embêtée. Moi, il y a une seule chose qui me rassure dans tout cela, c'est que la France n'a pas fait partie des abstentionnistes lors du dernier vote du Conseil de sécurité et a voté pour l'admission de l'État de Palestine à l'ONU. Bon, on sait que le veto américain a empêché cela. Mais il y a une espèce de dichotomie, presque, je dirais, de dysfonctionnement français. C'est-à-dire que sur le plan international, la position française a un petit peu évolué par rapport au mois d'octobre. Un peu évolué dans la mesure où il y a eu des condamnations, certes trop timides à mon sens, bien sûr, mais de la politique israélienne. Et d'un autre côté, on sanctionne, on punit, on criminalise tout soutien à la Palestine. C'est quelque chose de très grave et je crois que l'Europe s'embourbe là, la France en particulier, l'Europe en général, s'embourbe dans une politique tout à fait inacceptable.
Vous avez utilisé des termes forts pour expliquer et qualifier l'attitude européenne vis-à-vis de la question palestinienne. Notamment, vous avez qualifié Israël d'être un bastion avancé de l'Europe. Et vous avez même parlé d'un refoulé colonial. Si c'est le cas aujourd'hui, si on parle vraiment d'un bastion avancé de l'Europe qui défend son bastion et il y a un refoulé colonial, on est de retour à une phase où l'expansionnisme est tout à fait considéré comme louable et toléré par l'opinion publique européenne ?
Je ne crois pas qu'il faille poser la question tout à fait comme ça. Il est évident que le projet sioniste, tel qu'il a été formulé par son concepteur, c'est-à-dire par Theodor Herzl dans son ouvrage emblématique, son ouvrage fondateur, qui est l'État des Juifs, disait lui-même qu'il s'agissait d'un projet colonial. Donc, je veux dire, ce n'était pas un mot tabou au moment de la conception du sionisme.
Mais aujourd'hui...
Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé le fait que, en 1948, lors de la création de l'État d'Israël, on était dans la première phase de la décolonisation du monde. Et que donc, on ne pouvait plus dire que le projet sioniste était un projet colonial. C'était obsolète et illégitime, d'une certaine façon. Donc, au moment de la reconnaissance de l'État d'Israël par les Nations Unies, car il faut préciser que une des clés du problème, c'est qu'on peut considérer que l'État d'Israël est un État illégitime, mais c'est un État légal. C'est un État légal. Il ne faut pas oublier cette dichotomie, ce qui complique la question, mais c'est un État internationalement légal, que d'ailleurs le mouvement national palestinien a reconnu. Donc effectivement, dans les faits, dans le quotidien, il est évident que l'État d'Israël a une pratique coloniale vis-à-vis du peuple palestinien. Alors évidemment, il y a l'éternel débat qui ne sera résolu que quand la question sera réglée, c'est-à-dire pas demain matin, est-ce que la reconnaissance de l'État dans ses frontières de 48 est légitime, est légale. Oh, alors, est-ce qu'on se bat sur la question des frontières de 48 ou on se bat sur la question des frontières de 1967? Supposons, prenons le consensus international qui est Israël doit revenir à ses frontières du 4 juin 1967. Il est évident que même si on prend 67, la politique d'Israël depuis 67, sans remonter plus haut, sans remonter à la première Nakba, est une politique tout à fait coloniale. Entre 1967 et 2024, il y a plus de 700 000 colons qui se sont installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Si on n'appelle pas ça une politique coloniale, je ne vois pas comment on peut la qualifier.
De toutes les façons, elle est qualifiée ainsi, y compris par les Nations Unies.
Absolument, absolument, puisque tout ce que fait Israël est totalement illégal au regard du droit international. Et que les colonies sont illégales au regard du droit international. Évidemment, les pays européens, je pense à la France, je pense à la Grande-Bretagne, même si leurs politiques coloniales n'ont pas été tout à fait les mêmes, n'ont pas réglé leur question coloniale. La question coloniale n'est pas encore, je dirais, totalement digérée. Elle a été acceptée par la contrainte, c'était comme ça. Bon. D'un autre côté, et ça c'est un des paradoxes de la question israélienne, c'est un grand paradoxe, pendant des siècles, les Juifs ont été considérés en Europe comme des intrus venus d'Orient. Bon, c'était l'oriental, la caricature du Juif, c'était une caricature de l'oriental. Il venait de Palestine, il était un oriental. Et à partir de la création de l'État d'Israël, c'est devenu un bastion avancé de l'Occident au cœur de l'Orient. Et effectivement, les Israéliens se considèrent, malgré les dissensions qu'il peut y avoir entre les Israéliens d'origine européenne et les Israéliens d'origine orientale, mais se considèrent comme des Occidentaux. Et donc, il y a là, dans cette défense d'Israël, à part le contentieux historique, bien sûr, il y a évidemment la défense d'un pays qui est considéré comme une partie de l'Occident. Et quand on regarde le vocabulaire, en fait, des dirigeants européens ou des dirigeants américains, on s'aperçoit que Israël est considéré comme une partie de l'Occident. Dans cet article que je vous citais tout à l'heure, que j'avais écrit en février, j'étais scandalisé. Il y avait eu un attentat palestinien contre une synagogue en février, et le président Biden avait dit c'est un attentat contre le monde civilisé.
Ouais, déjà.
C'était déjà. Non. Ça, c'est un vocabulaire qui est extrêmement banal, l'attentat contre le monde civilisé. Et j'avais été scandalisé, et je l'avais écrit en disant, mais qu'est-ce que c'est que le monde civilisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on parle du monde civilisé, quand il y a des meurtres de masse aux États-Unis tous les matins à peu près, alors les États-Unis font-ils ou non partie du monde civilisé? Et donc, mais cette appellation de monde civilisé réfère immédiatement à l'imaginaire colonial, évidemment.
Dans votre dernier ouvrage paru en 2021, Je vous parle d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt, vous critiquez l'eurocentrisme. Vous avez travaillé dessus. Comment expliquez-vous qu'à la fois l'Europe peut se sentir coupable mais ce sent en même temps le maître à bord qu'il faut suivre, qu'il faut surveiller, qu'il faut...
Je pense que ce n'est plus tout à fait comme ça que se pose la question. Les Européens savent aujourd'hui, le monde change. Ça c'est un truisme, hein, excusez-moi cette banalité. Et le monde est en train de changer, c'est-à-dire, il change dans quel terme? C'est-à-dire dans le terme de déplacement de la puissance. La puissance aujourd'hui se déplace. On le sait, la Chine est la deuxième puissance mondiale, sinon peut-être la première, ça dépend comment on calcule. Bon. Et les Européens, les Américains un peu différemment, parce que leur histoire n'est pas tout à fait la même, ont conscience de leur décentrement, c'est-à-dire d'un processus de décentrement. Les Européens sont en train de cesser d'être le centre du monde. Ils ne sont pas encore une banlieue du monde. N'exagérons rien, bien sûr, mais ils ne sont plus le seul centre du monde. Et je crois que cette défense, ce vocabulaire colonial dont on parlait il y a un instant, est aussi une illustration de leur inquiétude. Et je crois que, parce que les Européens savent très bien, sur le plan de la puissance technologique, sur le plan de la puissance militaire, sur le plan de la puissance symbolique également, hein, les Européens sont en train de perdre. Quand on sait quelle a été leur puissance entre le XVIe siècle et le XXe siècle, où ils contrôlaient le monde entier, où ils ont mis le monde entier sous leur coupe, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui ? Peut-être l'Europe deviendra un grand musée, voilà, de quelque chose qui aura été. Et je pense que les Européens en ont profondément conscience et qu'il y a une espèce d'inquiétude, une espèce d'affolement, une espèce de panique aujourd'hui en Europe sur la perte du statut. La perte du statut. Et je pense que une des raisons, pas la seule bien sûr, de la montée de l'extrême droite en Europe, c'est cet affolement sur la perte du statut.
D'accord. Donc ce n'est pas une puissance sereine, mais plutôt un affolement.
Une puissance très inquiète. Profondément inquiète, à mon sens.
Aujourd'hui, cette inquiétude s'exprime dans la rue européenne, mais également dans la dynamique politique qui favorise la montée d'extrême droite. Mais comment nous, peuple du Sud, pouvons déjouer ou démanteler cet eurocentrisme qui empêche le dialogue et qui impose des rapports de force violents?
Oui, c'est une bonne question, effectivement, parce que les Européens sont tout à fait contraires. Enfin, quand je dis les Européens, je ne généralise jamais, je déteste généraliser. Oui. Hein, parce que s'il y a une chose que je critique, je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'essentialisme. Mm. Bon, je ne suis pas essentialiste. Mais quand je dis les Européens, bon, c'est les élites, ceux qui parlent, ceux qui... et une partie des opinions publiques, incontestablement. Mm. Il y a une contradiction. C'est qu'à la fois, il y a cette inquiétude dont je parlais, et il y a à la fois le fait qu'ils n'arrivent pas à se départir de cet eurocentrisme, c'est-à-dire de cette conscience qu'ils sont encore le centre du monde intellectuel, et que, en réalité, toutes leurs expériences singulières ont valeur universelle. C'est comme ça, en fait, qu'on peut mesurer la puissance de l'eurocentrisme ou de l'occidentalocentrisme de façon plus générale. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a des principes universels. J'ai toujours cru à l'universalité d'un certain nombre de principes. Mais les trajectoires vers l'accomplissement de ces principes sont des trajectoires singulières. Elles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que arriver à la démocratie, ce n'est pas forcément adopter le parlementarisme britannique. On peut arriver à la démocratie par d'autres voies, en employant d'autres outils. Donc, les principes, pour moi, sont universels, pas les trajectoires. Mais les Européens ou les Américains sont convaincus que leurs trajectoires sont universelles, et pas seulement les principes. Les principes, d'ailleurs, qu'ils violent quand cela leur convient, en fonction de leurs intérêts, bien évidemment. Il faut le rappeler. Alors, nous, gens du Sud, comment est-ce qu'on peut déjouer cet eurocentrisme ? Je crois que d'abord, il faut avoir et délivrer un discours sur l'universel. Quel est le danger aujourd'hui ? C'est que, en face de cet eurocentrisme, qui s'exprime encore par de multiples façons, nous avons au Sud des discours qui puisent à la rhétorique identitaire. C'est-à-dire que on va opposer au discours eurocentriste ou occidentalocentriste de façon plus générale, on va opposer des discours qui disent « notre identité n'est pas celle-là ». L'identité arabo-musulmane, les valeurs asiatiques, tout ce qu'on veut. C'est la pire des façons de s'opposer, à mon sens, à cet occidentalocentrisme qui est extrêmement négatif, bien évidemment, parce qu'il ne laisse pas de parole à l'autre, à l'altérité. Nous devons, nous, avoir un discours qui est notre discours sur l'universel, qui est un discours beaucoup de penseurs, d'intellectuels en parlent aujourd'hui. Je pense à cette conception qui est tirée du philosophe français Merleau-Ponty, mais qui a été appropriée par des philosophes du Sud, qui est fabriquer un universel latéral et pas un universalisme vertical qui part du Nord et qui descend généreusement vers les populations du Sud. Non, c'est pas comme ça qu'on va le construire. Mais je crois que l'abandon du discours sur l'universel est une mauvaise façon de répliquer à l'occidentalocentrisme. C'est-à-dire, pensons, analysons, travaillons et ne soyons pas uniquement sur des postures réactives par rapport à cet occidentalocentrisme. Pensons, et c'est ainsi, je pense, qu'on gagnera l'autonomie de la pensée, que nos pensées cesseront d'être des pensées de la réaction vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident de façon générale. De cela, je suis convaincu. Il y a tout un travail qui est fait. Il y a, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, dans tous les continents du Sud, il y a ce travail qui est fait. Malheureusement, c'est un travail qui est encore minoritaire et c'est un travail qui n'est pas écouté par les pouvoirs, en réalité. Et malheureusement, nous avons beaucoup de pouvoirs dans le sud du monde qui sont des pouvoirs qui se méfient des intellectuels et qui n'écoutent pas ce qu'ils ont à dire.
Donc, ce que vous venez de dire m'a rappelé une petite lecture que j'ai faite il y a quelques années. Et c'était la transcription d'une conversation qui a eu lieu entre Edward Said et Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish était à New York et il était invité chez Edward Said. Et quand ils se sont levés le matin et prenaient leur café, Mahmoud Darwish pensait à l'identité. Et il lui a dit, il y a quelque chose que je ressens et que je n'arrive pas à définir. C'est quoi l'identité ? C'est l'identité. Quel regard portes-tu ? Moi, je suis un poète et donc face au penseur qui a plus d'outils pour répondre à ce genre de questions, comment peux-tu définir l'identité ? Et là, il lui a dit, quand est-ce qu'on ressent Edward Said, quand est-ce qu'on ressent l'identité ? C'est quand on est agressé. Donc l'identité n'existe pas. On l'érige en bouclier. On la fait exister. On a une culture.
Tout à fait.
Et chaque peuple, chaque...
C'est ce qu'il développe dans Culture et Impérialisme.
Voilà.
Qui est, à mon avis, son bouquin le plus important.
Absolument. C'est ce qu'il développe dans... Mais rien que la petite conversation, à titre anecdotique, elle me semble très parlante entre Darwish et Edward Said. Vous avez parlé de la question du Sud. En dehors de l'identitarisme. Donc, et aujourd'hui, on parle beaucoup quand on parle de réponse Sud, elle est identitaire aussi. C'est-à-dire qu'on parle de la réaction arabe. Mais comment faire exister ce Sud-Sud, ce fameux Sud-Sud dont on parle tout le temps? Et qu'on a du mal à faire exister. Aujourd'hui, il y a le terme du Sud global qui est un peu à la mode. Mais vous et nombreux sont ceux qui pointent ces contradictions ses limites.
Le Sud, enfin moi j'emploie le terme de Sud au pluriel, d'abord, et pas au singulier. Le Sud a existé à un moment, au moment des luttes anticoloniales. C'est-à-dire, ça s'appelait le tiers-monde à l'époque, hein. Ça s'appelait le tiers-monde, et les luttes anticoloniales ont incontestablement créé une solidarité parmi les peuples qui avaient été soit colonisés, soit victimes de l'impérialisme, même s'il n'y avait pas eu de colonisation directe, comme la Chine, par exemple, où il n'y a jamais eu de colonisation directe, et d'autres pays qui n'ont pas connu la colonisation directe. Mais il y avait cette solidarité contre l'impérium occidental, parce qu'à l'époque, on pouvait parler d'un impérium. Bon, ce tiers-monde s'est petit à petit délité. Et c'est pour un tas de raisons qu'on n'a pas le temps de développer, bien sûr, dans un entretien, mais il s'est petit à petit délité, et il s'est délité aussi par le fait que ce qui s'appelait le tiers-monde, après Bandung, proposait d'autres voies de développement, et que le monde s'est converti à la à la modalité ultralibérale du capitalisme, y compris la plupart des pays du Sud aujourd'hui. Mmh. La Chine est quand même le parangon du capitalisme d'État, l'Inde également, de l'ultralibéralisme d'ailleurs, hein, qui va en général très très bien avec la réaction religieuse, ce qu'on oublie souvent de dire. Et donc, mais il y a une tentative aujourd'hui de reconstitution de ce Sud. De reconstitution de ce Sud. Il faudrait effectivement, pour que ce Sud existe, qu'il y ait des dialogues Sud-Sud. Et aujourd'hui, les dialogues Sud-Sud sont assez embryonnaires, sont assez rudimentaires. Si on prend les BRICS, par exemple, ce n'est pas du Sud-Sud, il y a la Russie dans les BRICS. Jusqu'à plus ample informé, la Russie n'est pas un pays du Sud. Encore que, sur le plan économique et sur le plan du pouvoir politique, on pourrait l'assimiler à un pays du Sud. Mais c'est quand même le Nord du Nord. Donc, sur le plan économique, il y a une hétérogénéité complète des pays du Sud. On ne peut pas mettre dans les pays du Sud, en même temps, la Chine et le Burkina Faso ou la Tunisie. C'est impossible, ça. Ça relève de logiques totalement différentes. Par ailleurs, et ça, vous avez tout à fait raison de parler à ce niveau-là de réclusion. Enfin, moi, je parle de réclusion identitaire. C'est-à-dire, il y a les Arabes d'un côté. Bon, l'exemple de la Tunisie, par exemple. Depuis des années, la Tunisie tourne le dos à son africanité. Est-ce que c'est une façon de développer cet indispensable dialogue Sud-Sud ? Aujourd'hui, quand on regarde les pays du Nord, ils se parlent. Ils essaient de construire des solidarités entre eux, que ce soit des solidarités militaires, que ce soit des solidarités économiques, quelles que soient les divergences. Ils en ont aussi. Le Nord n'est pas un bloc homogène, absolument pas. Absolument. Mais il y a des constructions. Il n'y a pas de construction dans les pays du Sud. Il n'y a pas de construction qui permettrait...
Il y a à peine quelques jours, le président Saïd Tebboune et le président du Conseil libyen ont annoncé un nouvel embryon d'initiative Sud-Sud.
Écoutez, permettez-moi de ne pas y croire un seul instant. La Libye, aujourd'hui, ferait mieux de s'occuper d'elle-même et de sa propre réunification avant de se poser en parangon d'un nouveau Sud. Enfin, on sait très bien l'état de la Libye aujourd'hui, qui est bon. La Libye est totalement fragmentée entre un Nord, un Sud elle-même, d'ailleurs. Bon, ça c'est la première chose. La Tunisie est un petit pays qui a été une voix écoutée par le passé au niveau du Sud, incontestablement. C'est-à-dire qu'à l'époque de Bourguiba, je ne suis pas une idolâtre, une bourguibolâtre, hein. La question n'est pas là.
Ceux qui connaissent votre œuvre savent que vous n'en êtes pas une.
Mais il faut dire que Bourguiba avait rendu son pays, sur le plan international, plus grand qu'il n'est, incontestablement. Ça, on ne peut pas lui enlever cela. La voix de la Tunisie comptait dans les années 1960. Aujourd'hui, elle compte assez peu. Restons polis. On est incapable au Maghreb de créer un Maghreb uni, de créer un Maghreb où il y aurait une véritable coopération maghrébine. Et on veut créer une coopération Sud-Sud. Commençons par balayer devant notre porte. Commençons par créer un Maghreb uni. L'union du Maghreb arabe, le terme arabe est à questionner d'ailleurs. Dans la mesure où, dans les constitutions marocaines et algériennes, la mazérité est posée comme un constituant.
D'où le terme Grand Maghreb, hein, qui est également.
Oui, terme de Grand Maghreb. Donc, commençons par essayer de construire des coopérations solides. Ce Grand Maghreb est en état de mort clinique depuis des décennies. Au lieu d'avoir l'ambition de créer, soyons modestes.
Mais ça, nous condamne-t-il à continuer à tourner le dos à l'Afrique subsaharienne?
J'espère que non. Vous savez, moi, j'ai passé une partie de ma vie au sud du Sahara.
Oui, rappelant que vous êtes aussi spécialiste de l'histoire de l'Afrique, pas que du Maghreb.
J'y ai vécu. J'ai vécu 4 ans au Cameroun. Ensuite de quoi, quand j'étais journaliste à Jeune Afrique, je sillonnais une partie du continent dans lequel j'ai noué des amitiés profondes au-delà de mon travail de journaliste et de mon travail de chercheur. Et pour moi, disons, l'Afrique, j'ai toujours essayé de faire en sorte que nord et sud de ce continent se regardent à nouveau. Aujourd'hui, effectivement, la Tunisie tourne le dos à son africanité. Son africanité est un des éléments de sa personnalité profonde. La mazirité, elle est africaine. Certes, en Tunisie, la mazirité est un reliquat très faible par rapport à l'Algérie et au Maroc, mais il y a des éléments d'africanité dans l'histoire de la Tunisie. Après tout, c'est la Tunisie qui a donné son nom au continent. Déjà.
Mais pas que.
Alors, c'est pour ça que j'ai déploré et que j'ai été extrêmement, non seulement scandalisé, mais très attristé par les discours anti-noirs, les discours racistes qui ont été proférés l'année dernière au plus haut sommet de l'État. Voilà. Et qui sont, à mon avis, catastrophiques. La Tunisie, je peux vous le dire, ayant sillonné le continent africain pendant de nombreuses années, avait une image très positive. Quand on disait « je suis tunisienne »,« ah, vous êtes tunisienne !» Bon, on vous heurtait évidemment le nom de Bourguiba, déjà pour commencer, c'est sûr, mais « ah, vous êtes tunisienne », c'était tout de suite, c'était un plus. Aujourd'hui, c'est un moins. Quand on va en Afrique.
Ce qui est malheureux.
Ce qui est extrêmement malheureux. Mais je crois, là, que... Et on revient à l'histoire. Je crois que les pays arabes, et pas seulement ceux du Maghreb et la Tunisie, ont un devoir de mémoire à faire qu'ils n'ont pas fait. Parce que quand on regarde l'histoire de notre Maghreb, ne parlons pas du reste du monde arabe, je ne vais pas trop généraliser. Pendant 10 siècles, à peu près, les pays du Maghreb ont été des pays négriers. Non, il faut appeler un chat un chat. Et que la traite négrière a... duré à peu près du 10e au 19e siècle. Vous savez que l'abolition de l'esclavage en Tunisie, c'est 1846. Bon. Et moi, ce que j'adore chez les Tunisiens, c'est qu'ils sont très fiers de l'abolition de l'esclavage. Mais s'il a été aboli, c'est bien parce qu'il existait. Sinon, il n'aurait pas été aboli. Donc, la situation coloniale a fait oublier le fait que les pays du Maghreb ont été des pays colonisés. La situation coloniale a fait oublier ce qui s'est passé avant la colonisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une solidarité des colonisés et il y a eu une vraie solidarité entre les pays du Maghreb et les pays d'Afrique subsaharienne. Le Maroc d'abord, l'Algérie ensuite ont abrité les mouvements de libération d'un certain nombre de pays africains, en particulier des colonies portugaises qui ont été les dernières à être décolonisées puisqu'il a fallu attendre la révolution au Portugal pour que ça soit décolonisé. Donc, il y avait une solidarité réelle, laquelle a été oubliée complètement. Elle a été oubliée. Elle a été oubliée de part et d'autre, en fait, cette solidarité. Et je crois que pour la recréer, il faut relire l'histoire et il faut que les Maghrébins... Ça commence. Il y a quelques ouvrages, mais très peu encore. Il y a un ouvrage de Mohamed Ould qui est sorti récemment là-dessus, revisite leur passé impérial. Les pays arabes, avant d'être colonisés, ont été des puissances et ont eu des politiques impériales, ont eu des politiques esclavagistes. Et il faut faire ce travail de mémoire que les pays du Maghreb ne veulent pas faire. Et c'est aussi une façon de se réconcilier et de renouer les liens avec l'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs, qui n'est pas seulement une question d'équité, mais qui est aussi une question économique. Il y a des échanges qui sont des échanges tout à fait embryonnaires, en réalité, sauf le Maroc. Maroc a eu l'intelligence d'avoir une politique africaine. Nous aurions pu avoir une politique africaine. Nous aurions pu, et pas seulement sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan... Nous ne l'avons pas, cette politique.
Mais justement, quelles sont les raisons profondes de ce dos tourné par la Tunisie à l'Afrique subsaharienne? Est-ce son rapport avec le narratif fondateur même de l'État tunisien post-indépendant?
Je crois qu'il est antérieur au narratif de l'État post-indépendant. Bourguiba, de ce côté-là, était extrêmement ambivalent. Puisque c'est lui qui a construit le narratif de la Tunisie tout de suite après l'indépendance. Hein. Il a écrit le roman national de cette époque.
Quels sont, si vous permettez, quels sont les plus importantes lignes de ce roman national écrit par Bourguiba, d'après vous?
Alors, à mon avis,
le côté carthaginois.
Bon, tous les romans, tout pays construit un roman national pour asseoir, disons, son assise et pour que ses citoyens aient un imaginaire commun. Cet imaginaire commun en Tunisie a été un échec, d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que le roman national n'a pas été approprié par tout le monde. Mais je crois que le roman national bourguibien est, un, l'ancienneté de l'objet Tunisie. Ce n'est pas un hasard si il fait remonter l'existence de la Tunisie, même si elle ne s'appelait pas comme ça, à la fondation de Carthage en 814 avant Jésus-Christ. Ça voulait dire quoi, cette profondeur historique qu'il donnait à l'objet Tunisie? Ça voulait dire, un, que la Tunisie est une civilisation ancienne qui n'a rien à envier à l'époque aux civilisations des pays qui furent les dominateurs et qui furent les colonialistes. Et que donc, la Tunisie a 3000 ans d'histoire, ça c'est comment dire, un mantra du narratif officiel du roman national. 3000 ans d'histoire, elle est ça, dis donc, etc. Et ça voulait dire aussi, elle n'est pas seulement arabo-musulmane. Elle est beaucoup plus ancienne que cela. Voilà. Et que donc, parce que d'autres, évidemment, faisaient de la conquête arabe le début réel de l'histoire de la Tunisie. Donc il y avait deux récits un peu en concurrence, peut-on dire. Mais en même temps, Bourguiba était assez intelligent pour savoir qu'il était hors de question de minimiser l'arabité et l'islamité de la Tunisie. Il a toujours fait très attention à cela. C'était pas un nationaliste arabe. Il avait un rapport à la religion tout à fait, on va dire réformiste, on va dire moderniste. Mais en même temps, il a toujours utilisé l'islam quand il en avait besoin. Mais il faut pas oublier, pour ça il faut regarder une carte de géographie. La géographie fait l'histoire aussi. La Tunisie plonge assez peu dans le Sahara. C'est un petit pays. Quand on regarde le Maroc et l'Algérie, le Maroc et l'Algérie plongent profondément. L'Algérie a une frontière avec le Mali, elle a une frontière avec le Niger, les pays de... Le Maroc, c'est la même chose. Puisque le Maroc à un moment avait des prétentions sur la Mauritanie. Or la Mauritanie va jusqu'au fleuve Sénégal. La frontière sud de la Mauritanie, c'est le fleuve Sénégal. Donc et en même temps, la Tunisie est le pays le plus oriental du Maghreb, le plus proche du Machrek, et celui qui a été le plus influencé par la pensée arabe. Parce que quand je parle de pensée arabe, je pense pensée du monde arabe. C'est-à-dire la péninsule arabique, la Syrie, l'Irak, c'est ça, le cœur de l'arabité. Même l'Égypte, on peut en discuter, même si elle a été la matrice du nationalisme arabe moderne. Mais l'Égypte, c'est l'Égypte.
L'Égypte, c'est
l'Égypte. Voilà, l'Égypte, c'est l'Égypte, c'est autre chose. Et donc, la Tunisie est incontestablement le plus arabe des pays du Maghreb. Bon. Et aujourd'hui, l'immense majorité des Tunisiens se considèrent comme des Arabes. Et je crois que voilà. Donc l'imaginaire tunisien est tissé de cela. Et plus que l'imaginaire marocain, l'imaginaire algérien. Beaucoup plus. Même si, effectivement, l'arabité est importante dans ces deux pays. Mais enfin, il ne faut pas oublier que la moitié de la population marocaine parle tamazir, t'es le quart de la population algérienne. Voilà. Et ces gens-là vont vous dire, non, nous, on n'est pas Arabes. N'est pas arabe. Tandis que vous allez trouver très peu de gens en Tunisie qui vont vous dire on n'est pas arabe.
N'est-ce pas aussi en rapport avec la politique de Bourguiba qui insistait sur la notion de l'union et qui a ainsi peut-être sacrifié un certain pluralisme?
Certainement, certainement. C'est-à-dire que, et ça c'est la caractéristique, malheureusement, je le pense, malheureusement, de toute construction autoritaire d'un État. Et la construction de l'État tunisien était une construction autoritaire. C'est-à-dire la crainte, et en fait c'est la matrice, à mon avis, de tous les nationalismes, c'est la crainte de l'altérité, la crainte de la pluralité. Il faut qu'on soit tous les mêmes. C'est une, ce qui est une catastrophe, hein, voilà. Et je crois que ce refus de l'altérité, ce refus de la pluralité, ce refus de la diversité, vous savez que la langue berbère était interdite. Il était interdit de parler le berbère. Ce qui est, voilà. Et que donc, effectivement, on a minimisé la dimension africaine de la Tunisie, qui est une de ses dimensions, probablement pas la plus importante, mais elle est là, elle est au substrat. Elle est, quand vous regardez, quand vous regardez les poteries de Sajnen, bon, ou les dessins des Mergoum, qui sont, c'est de la pure berbérité.
Ça, bien, hein, sûr.
Mais vous allez retrouver ces dessins, vous allez les retrouver à Bamako et à Niamey, vous n'allez pas les retrouver à Damas et à Bardet. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et cette arabité, donc cette intériorisation d'une arabité exclusive, je sais qu'elle est prépondérante. Il faut pas, bien entendu. Et toute personne qui dirait que l'arabité de la Tunisie n'est pas prépondérante serait stupide de ne pas reconnaître cette évidence. Elle n'est pas exclusive et on l'a rendue exclusive. Voilà. Et c'est ça qui a fait aussi qu'on a tourné le dos à l'Afrique. Et là, évidemment, dans la conjoncture actuelle, ça a atteint les proportions d'une caricature désespérante.
Absolument. Cette caricature, on la voit, surtout au-delà de l'attitude des dirigeants et des décideurs et de leurs discours qui peuvent verser dans le racisme, on la voit malheureusement chez une bonne partie de la population.
Mais bien entendu, parce que justement,
que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux.
Ce travail de mémoire n'a pas été fait. Qu'est-ce que c'est le noir en Tunisie ? L'arabite ! Encore aujourd'hui, quand vous regardez le vocabulaire de l'arabe dialectal, c'est un vocabulaire épouvantable. Le kahlouch, l'ossif.
L'ossif qui est problématique, parce que ça veut dire serviteur.
Voilà, ça veut dire serviteur, absolument. Donc ce rapport au noir n'a pas été visité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un véritable travail contre le racisme qui est aussi un produit de l'histoire. Et de ce côté-là, les Maghrébins se considèrent comme des Blancs, hein, quels que soient les discours des coloniaux qu'on peut entendre à droite et à gauche. La stigmatisation du noir en miroir veut faire dire que le Maghrébin est un Blanc. Hein, faut pas oublier ça.
N'est-on pas finalement dans une course pour prouver qui est le plus Blanc ?
Plus blanc que blanc. C'était un sketch d'un humoriste français. Plus blanc que blanc. Oui, de toute façon,
C'est-à-dire que nous-mêmes, on a intégré
la blanchité
dans nos têtes l'idée que la positivité, c'est la blanchitude.
Oui et non. Oui, bien sûr, je crois que...
Au point d'être un idéal auquel on songe ou on s'identifie.
Telle qu'elle est dite maintenant dans les discours des coloniaux.
Pas comme ça.
Mais effectivement, et on le retrouve même dans des écrits arabes du Xe siècle, enfin c'est très ancien, hein, même si on nous sort toujours que... Le premier muezzin du prophète, c'était Bilal qui était noir, etc. Bon, ça c'est, mais ça suffit pas pour justifier. Il est évident que les Arabes ont été pas de la même façon que les Européens, c'est-à-dire les logiques de la traite arabe n'ont pas été les mêmes que les logiques de la traite négrière européenne, de la traite transatlantique. Mais il est évident que pour réduire quelqu'un d'autre en esclavage, il faut bien qu'il soit inférieur. On ne réduit pas un égal en esclavage. Donc, l'infériorisation du noir est une constante dans l'histoire du monde arabe.
Et une forme de déshumanisation.
Toujours.
Qu'on observe aujourd'hui, qui prend probablement d'autres formes et qui utilisent d'autres moyens, mais cette déshumanisation qu'on a pu observer dans le discours, y compris d'officiels israéliens.
Pour moi, j'ai un critère pour la déshumanisation de l'autre. Dès qu'on emploie, c'est malheureux pour les animaux d'ailleurs, mais dès qu'on emploie des termes relevant de l'animalité pour décrire l'autre, celui qui n'est pas le même que vous, on le déshumanise. Je reprends
singe, cochon,
ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Qu'est-ce qu'a dit, je ne sais plus quel dirigeant israélien au lendemain du 7 octobre, a dit, ce sont des animaux humains et nous allons les traiter comme tels. Lors du génocide des Tutsis du Rwanda, les Tutsis étaient des cafards.
Ça se répétait sur Radio Mille Collines, voilà, ils disaient les cafards. Oui.
Dans le discours nazi, les Juifs étaient de la vermine. Et donc, ce vocabulaire de l'animalité est toujours un symptôme du pire. Toujours. Et donc, il faut faire très attention à cela.
Ce qui est effectivement malheureux pour les animaux.
Ce qui est effectivement malheureux pour les animaux, qui méritent mieux que ça, à mon avis. Voilà.
Cependant, aujourd'hui, ces rapports se retrouvent mélangés à des enjeux locaux. C'est-à-dire, je rappelle ici l'histoire des migrants subsahariens et ce qui leur arrive actuellement en Tunisie, mais aussi le rôle que la Tunisie joue comme gardien des frontières européennes. C'est-à-dire que cette assimilation aux Blancs vire vers la certitude aussi, vers la servitude aussi.
Peut-être. En tout cas, il est évident, je rebondis là-dessus parce que c'est important, il est évident que l'Europe a une très lourde part de responsabilité dans le traitement qui est fait aux subsahariens au sud de la Méditerranée. Parce que, effectivement, l'Europe n'a qu'une seule obsession aujourd'hui, c'est d'externaliser le contrôle des migrants. Dans cette politique d'externalisation du contrôle des migrants, le discours du chef de l'État tunisien est un discours d'une certaine façon bienvenu, même s'il est insupportable. Voilà, en disant on va les renvoyer, etc. Ce que les pays maghrébins, le Maroc l'avait partiellement compris, puis il est revenu là-dessus. Les pays maghrébins, aujourd'hui, ne sont plus seulement des pays de transit. Ce sont aussi des pays d'installation. D'installation pérenne, d'installation pour plusieurs années, je ne sais pas, puisque évidemment, le but ultime, c'est d'arriver vers l'Europe. Mais enfin, il y a quand même des subsahariens qui sont là depuis des années. Et la Tunisie ne leur accorde rien, ne leur accorde aucun droit, ne leur accorde... Et là, il y a une contradiction fondamentale, c'est que les Tunisiens se plaignent du racisme dont ils sont souvent victimes en Europe, effectivement, mais ne se rendent pas compte du racisme que eux pratiquent dans leur propre pays. Et moi, je crains beaucoup une délégitimation du discours antiracisme, antiraciste des Maghrébins en Europe en disant, mais balayez devant votre porte d'abord. Balayez devant votre porte et après vous viendrez nous critiquer. Enfin, un jour, l'ex-président Abdoulaye Wade du Sénégal avait fait scandale en disant « Moi, je préfère être un nègre en Europe qu'un nègre dans le monde arabe. »
Oh.
Et donc, au niveau de l'OUA, il avait fait scandale à l'époque. Mais, voilà, je cite la phrase d'Abdoulaye Wade. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un problème. Mais c'est très intéressant à étudier, d'ailleurs, parce que pourquoi des migrants subsahariens s'installent pour quelques années en Tunisie. Parce que l'enrichissement très relatif, je connais les problèmes économiques et sociaux de mon pays et je sais que cet enrichissement est un enrichissement relatif. Pour autant, par rapport à un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, il y a la Tunisie est un pays plus riche. Deuxièmement, il y a des métiers que les Tunisiens ne veulent plus faire parce que ils estiment que c'est pas de leur niveau. Et donc, ils ont une attitude qui s'apparente beaucoup à l'attitude des pays européens. C'est-à-dire, eh bien, les subsahariens font des métiers, femmes de ménage, plongeurs dans les restaurants,
ouvriers agricoles,
ouvriers du bâtiment, qui sont parmi les métiers les plus
Et les plus boudés par les Tunisiens.
Absolument. Aussi. Et les plus boudés par les Tunisiens. Ben, c'est là qu'on trouve les subsahariens. C'est-à-dire que, paradoxalement, les Tunisiens ont une attitude de pays, de peuple riche par rapport aux subsahariens. Il y a des métiers qu'ils veulent plus faire. De la même façon qu'en Italie, en France, ailleurs, il y a des métiers que les autochtones de ces pays ne veulent plus faire. Tous les métiers de ce qu'on appelle le Caire, par exemple, sans parler du bâtiment, etc. Et donc, voilà, je crois que les Tunisiens feraient bien de s'interroger sur leur rapport à ces migrants, pourquoi ils sont là, pourquoi ils restent, malgré les exactions dont ils... Bon, beaucoup sont partis, évidemment, mais malgré les exactions dont ils sont victimes, je crois que ça interroge aussi les Tunisiens.
La question des tensions identitaires prend plusieurs facettes et se conjugue de différentes manières.
Bien sûr.
Et la frontière entre ces tensions identitaires et la politique est généralement invisible. Dans la mesure où récemment, il y a eu l'annonce de l'annulation des festivités et le fait de se contenter seulement des rituels à l'intérieur même du temple juif de la Ghriba, alors qu'il y a eu depuis des décennies un pèlerinage annuel, certes parfois marqué par des attentats ou des actes violents, mais cette année, il y a eu cette décision au regard aussi du contexte et de ce qui se passe en Palestine occupée. Comment percevoir ça? La judaïté en Tunisie a-t-elle un problème comme les subsahariens, comme les restes? A-t-on un problème avec la diversité? Ou est-ce légitime, politiquement, d'imposer des restrictions, d'abord d'ordre sécuritaire et logistique, mais ensuite qui recèlent de pas mal d'enjeux politiques au-delà de la question identitaire?
Alors vous soulevez beaucoup de questions. Moi, à la limite, je peux comprendre que, en regard de la tragédie de Gaza, on ne fasse pas la fête. Ça, je peux tout à fait le comprendre. C'est pas, nous ne sommes pas dans une conjoncture où il convient de faire la fête. Bon. Pas seulement au niveau de la Ghriba, d'ailleurs, à d'autres niveaux. Pour autant, évidemment, ça pose le problème du statut des Juifs en Tunisie. Bon. Moi, je suis souvent... c'est un statut tout à fait particulier. C'est-à-dire que les Juifs en Tunisie, et c'est une des raisons essentielles pour lesquelles cette minorité a quitté son pays natal, beaucoup y étaient installés depuis des siècles, sinon, si on veut prendre avec exactitude les traces physiques de la présence juive, date du 1er siècle après Jésus-Christ, à peu près. Mais on estime que certains sont venus avec les Phéniciens. Mmh. C'était quand même très voisin, hein, quand on regarde, à l'époque. Et donc, cette minorité, pour des tas de raisons, n'a pas été considérée comme étant pleinement tunisienne. On était tunisien sans être tunisien, tout en étant tunisien, mais c'était un statut particulier, qui est dû, je vous l'ai dit, à une série de facteurs, mais aussi, évidemment, aux facteurs de la religion hégémonique. Il ne faut pas oublier aussi qu'à partir de l'indépendance, l'article 1 de la Constitution dit que la religion de la Tunisie est l'islam, et forcément, c'est un obstacle à la pluralité. Bien entendu, dans la mesure où on aurait pu, l'article 1 de la Constitution tunisienne aurait pu dire... L'islam est la religion de la majorité des Tunisiens, par exemple. Voilà. Mais c'était tout de suite faire des non-musulmans des citoyens de seconde zone. Je rappelle également que il est le président de la République doit être, selon la loi, selon la Constitution, doit être musulman. Bon. Alors évidemment, c'était même inutile, parce qu'il n'y a aucun risque, et même au moment de l'indépendance, où la population juive tunisienne... était d'un peu moins de 1% de la population tunisienne totale.
Selon les derniers chiffres consultés,
voilà, donc il était absolument impossible qu'un juif puisse devenir président. C'était
68 000
donc,
personnes.
Donc, les juifs ont toujours été des citoyens de deuxième zone. Il ne faut pas rêver. Évidemment, la politique israélienne a accentué cette différenciation. Elle est due d'abord, et j'insiste sur ce fait, sur ce refus de la part des pouvoirs, de la part des élites, le refus de l'altérité, de la part du nationalisme. Je vous le disais tout à l'heure. Le nationalisme a comme axe, je dirais, pilier central, le refus de la diversité, le refus de l'altérité. Donc il fallait que tout le monde soit arabe et musulman, en gros. Ensuite, évidemment, la politique israélienne a fait que les juifs ont été considérés par une majorité de la population comme une cinquième colonne de l'ennemi. Ce qui est catastrophique, évidemment, pour la convivialité, pour la convivance. Donc, et aujourd'hui, ensuite, de quoi les jeunes générations en Tunisie ne savent pas qu'il y a eu des juifs. Pourquoi ? Pas seulement parce que la plupart d'entre eux sont partis, c'est parce qu'aussi, dans l'éducation, dans les programmes scolaires, non, il n'y a aucune mention de la millénaire présence juive en Tunisie. Les juifs n'ont pas seulement été effacés du réel, ils ont été effacés de la mémoire, ils ont été effacés de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui me semble être très important pour essayer de comprendre aussi cette réclusion identitaire.
Rappelons qu'il y a encore des synagogues en Tunisie, qu'il y a une toute petite communauté qu'on considère de 2000 personnes ou 1500
personnes.
Aujourd'hui,
c'est 1500 maximum.
D'accord.
Dont la majorité à Djerba. Dans la majorité à Djerba. Donc, je peux tout à fait comprendre, je le répète, qu'on annule des fêtes. Voilà. Par solidarité, par compassion avec le nombre de morts de Gaza. Mais cela va au-delà. Par exemple, une chose qui m'étonne toujours. Beaucoup de gens, depuis le mois d'octobre, ont dit, mais comment les Juifs tunisiens, pourquoi est-ce qu'ils n'expriment pas leur solidarité avec la population palestinienne?
Est-ce que vous condamnez le Hamas? C'est l'autre version, ça.
Voilà. Pourquoi ils n'expriment pas leur solidarité avec, certains l'ont fait et beaucoup ne l'ont pas fait. Beaucoup ne l'ont pas fait parce que je pense qu'une minorité aussi fragile, d'abord, préfère se taire que parler, en général. Mais moi, je pourrais retourner la proposition vis-à-vis de mes concitoyens arabes, une grande partie d'entre eux. Je n'ai jamais entendu un Tunisien exprimer sa solidarité avec les Soudanais massacrés, par exemple. Le Soudan, personne n'en parle. Le Yémen, la guerre au Yémen, qui a fait des dizaines de milliers de morts, personne n'en parle. On ne parle que de la Palestine. J'ai, et vous le savez, je n'ai jamais caché mes positions, une solidarité totale avec la revendication palestinienne d'accès à ses droits nationaux. C'est une exigence que dont la communauté internationale ferait bien de s'emparer très vite. Parce qu'elle a mis un couvercle sur la question palestinienne, et le couvercle, comme dans toutes les cocottes minutes, il y a un moment où ça éclate. Voilà. Et ça a éclaté. De la pire des manières, mais absolument, ça a éclaté. Donc de ce côté-là, mais pourquoi j'ai cette position? C'est ça qui est important pour moi. C'est parce que je n'ai pas une position identitaire. C'est parce que j'ai une position politique. Parce que je pense que la défense des opprimés fait partie des principes fondamentaux de la morale et de l'éthique internationale. Voilà pourquoi il me semble indispensable de défendre les Palestiniens. Si j'avais une position identitaire, après tout, je n'aurais pas cette position. Donc il faut faire attention. Je pense que là, il y a plusieurs causes à la solidarité. Il y a des bonnes causes à la solidarité, il y a des mauvaises causes à la solidarité. La solidarité identitaire ne me paraît pas une bonne cause uniquement identitaire. On peut effectivement se sentir plus proche des gens qui vous sont proches que des gens qui vous sont lointains. C'est humain, ça. C'est humain. Mais attention, une solidarité ne doit pas être uniquement identitaire. Elle doit s'accrocher à d'autres principes. Et ces principes-là, je ne les vois pas chez beaucoup de Tunisiens. Ou sinon, ils auraient eu au moins des paroles pour ce qui se passe au fond dans des pays arabes, que sont le Soudan et le Yémen.
Justement, ici, est-ce qu'on a un problème avec notre pluralité au point que nous n'arrivons pas à réussir l'édification d'une démocratie? Parce que finalement, si la société, si culturellement, on a du mal avec notre africanité, on a du mal avec la part de population juive tunisienne, on a aussi certains malaises visiblement. Peut-on édifier une démocratie avec autant de malaises qui rongent une société et une culture dans son ensemble, indépendamment de la classe gouvernante aujourd'hui, hier ou demain? Ça, c'est inhérent.
Je crois que vous posez une question extrêmement importante. Quels sont les ingrédients permettant d'arriver à une démocratie. Certes imparfaite, il n'y a pas de démocratie parfaite dans le monde. Nulle part. Même dans les pays qui s'estiment les emblèmes de la démocratie n'est pas parfaite. Nous parlions, au début de notre entretien, nous parlions de la dérive française. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de démocratie parfaite et que la démocratie française est de plus en plus imparfaite. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans d'autres pays européens, on pourrait trouver un tas d'exemples là-dessus, sans même parler de l'Amérique du Nord. Mais il y a des ingrédients. La démocratie, ce n'est pas seulement la loi de la majorité. Voilà. Si c'était seulement la loi de la majorité, effectivement, eh bien, après tout, vous avez les régimes les moins démocratiques du monde qui peuvent être populaires. Qui peuvent être populaires.
Tout à fait.
Il y a le respect d'un certain nombre de principes. Et parmi ces principes, le respect de la différence. Le respect... Moi, je n'aime pas le terme de différence, en réalité. Je préfère dire le respect de la diversité, le respect de la pluralité, le respect de l'autre. De l'autre, parce que nous ne sommes pas tous identiques. Nous pouvons être proches, mais nous ne sommes pas tous identiques. Et effectivement, en Tunisie, l'acceptation de l'autre est encore problématique. Moi, je vois deux branches à l'aspiration démocratique des Tunisiens et des Tunisiennes. La première branche, c'était en 2011, on va dire, et pendant toute la période révolutionnaire. C'était la volonté de choisir ses gouvernants, l'aspiration à la liberté d'expression, l'aspiration à une société politique démocratique. Mais de l'autre côté, l'autre versant, l'autre branche de la démocratie n'était pas tellement acceptée. C'est-à-dire l'acceptation de la différence, l'acceptation de la diversité, l'acceptation de l'égalité de tous. Égalité entre les sexes, égalité entre les orientations sexuelles, égalité entre les musulmans et les non-musulmans, égalité, etc. Celle-là, je pense que la majorité, là encore, j'ai horreur d'essentialiser, j'ai horreur de généraliser, mais je pense que chez la majorité des Tunisiens, ce versant-là de la démocratie n'est pas du tout accepté.
Merci beaucoup Sophie Bessis pour ce très riche échange. Quelque chose à ajouter dans ce contexte?
Non, pas du tout. On pourrait parler. Peut-être pour finir, je voudrais pas terminer sur cette note pessimiste que j'ai. Ce que j'ai dit, j'y crois, ou sinon je l'aurais pas dit, bien sûr. Je l'aurais pas dit. Mais je crois que rien n'est fixé, rien n'est immobile. Nous pouvons changer. Nous devons changer, et je pense que ce n'est pas totalement impossible. Il y a des ferments dans ce pays, des ferments, tout n'est pas fermé. Voilà. Nous ne sommes pas dans un pays où tout est fermé. La fermeture aujourd'hui et la réclusion, elle est réelle, elle est là, devant nous, mais ce n'est pas... L'avenir reste encore entrouvert.
Ce n'est pas une fatalité, on va dire.
Il n'y a pas de fatalité.
Merci pour ce très riche échange. Merci d'avoir partagé tout votre savoir avec nous au long d'une heure. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Nous continuerons à vous lire, que ce soit dans la presse internationale ou vos ouvrages. Nous espérons voir encore paraître. Vous avez déjà une quinzaine à votre actif et nous attendons la suite. Merci encore et à très bientôt.
Merci à vous,
Théo. شكراً على متابعتكم لينا ساعة برشا أفكار برشا حاجات عليهم حديث اللي عنده حاجة يزيدنا يعبر عليها في الكومنتير مازلنا الإشكاليات اللي تطرحوها واللي تحبوا نحكيوا فيها باش نطرحوها في الحلقات جايين من راشمة بودكاست تابعونا هنا على يوتيوب بما زيد على فيسبوك انستغرام وتيك توك أتري بيانتو